Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Main vous fasse. Comment savoir si ces actions sont fondées sur des principes moraux? Être quelqu'un de bien, oui, mais selon quelle morale? Et question fondamentale, qu'est-ce que la morale? Plus précisément, qu'est-ce que la morale en 2021? Sous nos contrées, la morale est-elle universelle ou dépend-elle d'une société et d'une époque donnée? Samuel Butler écrivait d'ailleurs qu'en pays cannibale, le cannibalisme était moral, alors que notre époque éprouve du désordre face à certaines interrogations liées à la nature, à l'intelligence artificielle, à la procréation, au vivant. Quels sont les fondements moraux qui soutiennent toutes ces questions? Plus que jamais, nous avons besoin d'une boussole éthique pour ne pas perdre la tête. Les philosophes Aïd Ndiaye et Paul-Henri Tawayo nous aident à y voir plus clair. Mes complices cet après-midi, Christophe André et Marie-Laure Zonshine. Bienvenue dans Grand Bien vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Ali Rébéi. Grand bien vous fasse.
Bonjour Pierre-Henri Tawayo.
Bonjour.
Vous êtes philosophe, maître de conférences à Sorbonne Université. Vous présidez le prestigieux collège de philosophie et vous venez de publier chez Michel Lafon un ouvrage passionnant et très bien écrit, La morale de cette histoire, un guide éthique pour temps incertains. Avant, vous trouvez que nos temps sont incertains?
Je crois que tout le monde l'a un petit peu remarqué, me semble-t-il.
J'avais pas remarqué.
Donc, effectivement, pour le dire plus sérieusement, c'est vrai qu'on est dans une situation, sur le plan éthique d'ailleurs, un peu ambivalente, entre d'un côté le sentiment que tout fout le camp, qu'il n'y a plus de repères, que voilà, tout part en vrille, et puis de l'autre côté quand même l'impression que il y a aussi un retour d'un ordre moral, enfin, voilà. Et donc cette ambivalence entre une sorte de morale en pénurie et par ailleurs une morale en excès, je crois que caractérise assez bien notre situation éthique. Donc voilà, un peu d'ambivalence, donc un peu d'inquiétude, donc un peu d'incertitude.
Bonjour Aïd Ndiaye.
Bonjour Ali.
Normalienne, agrégée de philosophie, professeure dans un lycée de la région parisienne. Vous collaborez notamment à Philosophie Magazine. Bonjour Laurence de Villers.
Bonjour Ali Rébéi.
Normalienne, professeure de philosophie, vous avez notamment publié au PUF « Être quelqu'un de bien ». Alors qu'est-ce que la morale et est-ce exactement la même chose que l'éthique? Pierre-Henri Tawayo, le Robert Illustré 2021, nous dit que la morale c'est la science du bien et du mal, théorie de l'action humaine soumise au devoir, ayant pour but le bien. Bien, synonyme, éthique, l'éthique, l'ensemble des conceptions morales de quelqu'un d'un milieu.
On peut établir une différence. C'est vrai que spontanément, morale paraît plus, disons, conservateur, plus rigide, mais en même temps, plus de l'ordre du bon sens. Et puis éthique, ça paraît plus sympa aujourd'hui.
Plus intello.
Mais plus intello, voilà. Donc, il y a une ambivalence. En fait, on peut faire une différence, mais elle est purement conventionnelle. Pour le dire bêtement, éthique c'est du grec et morale c'est du latin. Ça répond à peu près à la même question. Que dois-je faire? Mais que dois-je faire pas simplement tout seul face à mon robinet qui fuit, c'est que dois-je faire dès que les autres sont en place, sont avec moi. Voilà. C'est la question de la philosophie pratique en général, qui pose la question, grosso modo, comment vivre ensemble sans s'entretuer. Voilà, c'est ça la question de base. Il y a plusieurs méthodes pour essayer d'y parvenir. La morale fait partie d'une de ces méthodes.
Aïd Ndiaye, comment présentez-vous la morale à vos élèves de terminale? Quels exemples précis leur donnez-vous?
Alors moi, je pars toujours de la question de l'action. Je pense que parce que quand on enseigne et quand on étudie la morale, on peut se poser la question des principes et on peut avoir ce sentiment que du coup les principes sont abstraits et ne débouchent pas forcément sur de bonnes actions. Et donc la question que je pose, c'est voilà, comment être sûr d'être bien agi, par exemple, d'avoir bien agi, pardon. Ou comment avoir bonne conscience. J'aime bien ces sujets et l'ouvrage de référence sur lequel je m'appuie, et d'ailleurs souvent, enfin en fin de première, je leur dis que c'est l'ouvrage, le seul ouvrage de philosophie qu'ils peuvent ou doivent lire pendant les vacances, c'est le livre de Ruan Ogyen, l'influence de l'odeur des croissants chauds sur la bonté humaine, parce que c'est justement de la philosophie morale expérimentale. Donc je trouve que ce qui est important, c'est vraiment d'essayer de leur montrer que ces questions se posent de manière très concrète, elles engagent en fait ce que nous faisons et le bien fondé ou le bien de nos actions. Et en effet, aujourd'hui, ce sont des questions qui se posent de manière très très cruciale, hein, avec, comme vous l'avez dit, par exemple, l'intelligence artificielle, bon, la programmation des voitures autonomes, par exemple, ça pose des questions, des choix éthiques en fait, qui sont des choix très importants.
Laurence de Villers.
Moi, je commence par le cinéma ou les séries,
parce que j'observe un décalage entre la déception qu'on a dès qu'on entend le mot de morale, la déception au sens où on se dit on va recevoir une leçon de morale. Bon, je vous fais confiance, Ali, pour y mettre un peu de glamour, mais morale est associée à une forme de moralisme, enfin de leçon de morale. Or, le cinéma a fait de la morale quelque chose de lyrique, voire d'épique. Si j'exagère un tout petit peu, je dirais que un certain cinéma américain, voire presque tout le cinéma américain, est une grande geste du bien et du mal. Three Billboards, Million Dollar Baby, Westworld pour les séries, ce sont des séries qui redistribuent les cartes du bien et du mal. Donc voilà, ce décalage entre le cinéma qui fait parler la morale haut et fort et nous qui voyons dans la morale spontanément quelque chose de contraint qui nous oblige et qui nous limite.
Pierre-Henri Tavoyau. Alors bon, pour moi, quand je fais un cours sur l'éthique, en fait, je distingue bien, parce que ça, c'est un point important, notamment dans notre monde contemporain, d'apporter un peu de distinction. Il y a les trois questions de Kant qui définissent la philosophie. Elles sont très, très utiles et très claires. La première question, c'est que puis-je savoir, c'est une question théorique. La dernière question, c'est que m'est-il permis d'espérer, ça c'est une question plutôt religieuse qui porte sur le salut, et entre les deux, il y a que dois-je faire. Finalement, c'est ça la question pratique, et au sein de cette question pratique, que dois-je faire avec les autres et contre les autres ou face aux autres, ça peut arriver, il y a trois techniques pour y répondre, et là aussi, il faut bien distinguer, il y a le droit, la morale et la politique. Et une des tendances et une des dérives de notre monde contemporain, c'est souvent de confondre ces trois domaines. On dit il faut moraliser la politique, par exemple. Attention, c'est un peu dangereux. Moraliser la politique, ça veut dire qu'on va aller chercher dans la tête des gens ce qu'ils pensent vraiment. Et on dit qu'il faut faire, par exemple, des lois de bioéthique. Lois de bioéthique. Mais soit c'est de l'éthique, soit c'est du droit. Il faut faire attention à distinguer. Donc, vous voyez, la grande distinction qu'apporte Kant, c'est l'idée que quand j'agis moralement, j'agis de manière désintéressée. C'est l'action faite par morale, et quand j'agis légalement, je suis conforme au droit. C'est-à-dire, j'agis parce que, précisément, en général, j'ai peur de la sanction. Si je m'arrête pas au feu rouge parce que je considère que le code de la route est un truc extraordinaire, un texte sacré que je dois respecter, je m'arrête en général, alors, en vérité par habitude, mais le plus souvent, si, parce que j'ai peur d'avoir un PV.
Laurence de Villers.
Oui, par rapport à ce que vient de dire Pierre-Henri Tavoyau, ce qui est intéressant chez Kant, ce sont à la fois les distinctions, oui, et ce qu'il associe à la morale, c'est-à-dire qu'il associe à la morale la liberté, ce que nous ne faisons pas spontanément, puisqu'on associe plutôt la morale à la contrainte. Le droit, c'est la conformité, donc être agir conformément à une loi, ce n'est pas être moral, c'est être dans la légalité et le droit. La morale, ce n'est pas agir conformément. En réalité, au plus profond de ce que veut dire Kant, c'est que la morale, c'est agir librement. C'est même la morale qui me révèle ma liberté. Pourquoi ? Parce que la morale, d'une certaine façon, me fait dépasser le cours ordinaire des choses et le cours ordinaire de ma vie. Je peux être le pire des salauds. La morale me met d'une certaine façon face à moi et face à un choix. Et donc, je crois que là, Kant dit quelque chose de parfaitement irréductible et je crois qu'on n'a pas dit mieux. Il faut vraiment le prendre en compte. Et nos consciences modernes, je crois, qui sont assoiffées et scrupuleuses de leur liberté, on peut être un intérêt à voir dans la morale, comme le dit Kant, une expérience non pas d'obéissance, mais de liberté. Et puis, juste par rapport à cette grande question, que dois-je faire ? Alors, évidemment, comme le dit Pierre-Henri, c'est que dois-je faire parce qu'il y a des autres. Mais je crois que c'est d'abord une question que je me pose à moi-même. Que dois-je faire ? Qu'est-ce que je me dois à moi-même ? Le bien est quelque chose qui me sollicite d'abord moi. Je ne fais pas le bien parce qu'il y aurait des autres et que j'aurais peur de leur regard ou de la punition, du châtiment. Je fais le bien parce qu'il y a comme une voix du bien, un appel du bien en moi. Le devoir, il est d'abord envers soi-même pour être ensuite envers les autres.
Christophe André.
Alors, moi, je ne suis que psychiatre, donc j'ai pas grand-chose à dire à ces questions de morale. Cependant, bien sûr, en psychologie, en psychiatrie, on essaie de ne pas juger ce que nous disent nos patients, quels qu'ils soient, qu'ils aient commis des mauvaises actions, qu'ils aient des tendances répréhensibles, etc. Notre boulot, c'est de ne pas juger, mais d'aider. Pour autant, on voit des choses assez claires. On voit, par exemple, que Les transgressions morales s'accompagnent de culpabilité. Même les personnes qu'on catalogue de l'extérieur comme des pervers, des gens vraiment accomplissant des actes répréhensibles, sont taraudées par la culpabilité. Alors, ils font parfois un énorme boulot de déni pour se la masquer, pour la repousser à l'intérieur, loin d'eux-mêmes, mais ils ont cette souffrance des transgressions morales. Et d'autre part, on voit aussi, notamment en psychologie expérimentale, que lorsqu'un être humain assiste à une scène morale, lorsqu'il voit des personnes s'entraider, lorsqu'il voit des humains adopter des comportements valorisés moralement, c'est-à-dire soutenir les faibles, consoler, réconforter, eh bien, leur cerveau sécrète de l'ocytocine. Autrement dit, cette morale n'est pas qu'une question abstraite, qu'une question décrétée par les humains, mais elle est au cœur de la nature humaine.
Pierre-Henri Tavoyot, vous écrivez que si tout le monde veut plus d'éthique, personne, hormis quelques fondamentalistes plus ou moins barbus, n'aspire au retour de la morale, celle d'autrefois qui imposait son ordre unique, dogmatique, conformiste.
Oui, parce que c'était une morale, si je puis dire, qui tombait du ciel, c'est-à-dire à l'égard duquel, justement, on se sentait pas en position de liberté. Or, comme l'a très bien dit Laurence de Villiers tout à l'heure, cette morale, c'est vraiment l'affirmation de notre liberté, c'est-à-dire l'arrachement à nos pulsions, à nos passions, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas aussi des phénomènes neurologiques qui sont produits par ça, mais c'est on valorise quelqu'un qui est moral parce qu'on voit qu'il agit, ou qu'il semble agir, personne ne sait exactement, de manière désintéressée. C'est-à-dire c'est ça qui nous touche. On se dit, mais il n'a aucun intérêt à faire ça, il le fait quand même. Alors, voilà la situation qui est paradoxale, mais par rapport à cette question de crise morale, en fait, quand on creuse un tout petit peu, on s'aperçoit que les principes moraux restent aujourd'hui étonnamment clairs. On dit qu'on est dans une situation de confusion morale, mais qu'avons-nous inventé depuis 5000 ans en matière de morale? C'est toujours les trois mêmes principes, pour aller vite. Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'autrui te fasse ou te fie. Ne laisse pas faire à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'autrui fasse à toi ou à tes proches. Et fais à autrui, principe de bienveillance, ce que tu voudrais qu'on te fasse à toi ou à tes proches. Là-dessus, j'allais dire, quelle est la morale aujourd'hui? On parle du relativisme moral, mais quelle est la morale qui dit non, mais vas-y, fais aux autres. Non, bien sûr, ce serait une contradiction dans les termes. Donc ces trois principes, alors tous ne sont pas aussi clairs qu'on peut le penser, mais ces trois principes constituent une stabilité, un universel moral absolu.
Il y a une phrase qui vous agace, que vous détestez, à chacun sa morale, qui selon vous peut être proférée par le naïf et par le salaud.
Oui, parce que d'ailleurs, on pourrait inverser les choses, dire voilà, ces trois principes, c'est les principes du bien, disons. Principe de non-nuisance, principe de non-indifférence, principe de bienveillance ou de bienfaisance. Mais à l'inverse, on pourrait dire celui qui ne respecte pas. Bah, celui qui ne respecte pas le principe de non-nuisance, c'est ce qu'on peut appeler le salaud. C'est-à-dire celui qui dit « la morale c'est génial, mais pas pour moi ». Pour les autres, voilà. Celui qui ne respecte pas le principe de non-indifférence, ça s'appelle le médiocre. C'est celui qui, au moment où on l'appelle à l'aide, dit « Ah, j'ai un autre truc à faire, j'ai un appel sur mon portable », voilà, et il ne le fait pas. Et puis alors, voilà, il y a quand même un troisième cas, ça c'est problématique, c'est ce qui constitue vraiment le méchant. Le méchant, c'est pas celui qui dit « je suis une exception » ou pas celui qui fait autre chose, c'est celui qui dit « je prends le mal pour projet ». J'ai envie de faire mal. Je le fais librement, ce mal. C'est très problématique, ça. On arrive d'ailleurs très très difficilement à le penser. Mais c'est ça qui détermine le salaud. Il y a un très bel exemple de saint Augustin qui raconte ça. Avec des potes, il est allé voler des poires dans le jardin du voisin. Et il dit, j'étais méchant. Alors on se dit, attends, saint Augustin, c'est pas très très grave ce que t'as fait. Lui dit si, parce que des poires, dans le jardin de mon père, il y en avait tout autant, elles étaient meilleures. Donc j'ai fait ça uniquement pour faire chier le voisin.
Aïda Ndiaye.
Oui, pour revenir sur ce qui a été dit, je pense que effectivement, ce qui est assez difficile à penser finalement, c'est qu'il y a d'un côté cette dimension qui se joue dans la conscience individuelle, ce que dit par exemple Kierkegaard, que en fait le devoir c'est toujours par rapport à soi-même, ce que disait tout à l'heure Laurence de Villers, et en effet ça peut donner cette impression qu'on trouve spontanément souvent chez mes élèves par exemple, que la morale est toute relative, subjective et arbitraire. Et donc il y a d'un côté ça, et donc en effet, comme l'a très bien montré Kant, finalement il y a cette idée que dans l'intimité de ma conscience, j'ai un accès quasi immédiat à l'universel, et que en fait on est assez spontanément d'accord sur ce qui est bien. Là on peut se dire par exemple pour les vaccins, même les gens qui ne veulent pas se faire vacciner, je ne pense pas qu'ils pensent que c'est bien, enfin que c'est ce qu'il faut faire, puisque assez facilement on peut leur montrer la contradiction qu'il y a dans le fait que si personne ne se fait vacciner, en fait ils vont eux-mêmes avoir un problème. Donc je pense que je peux, pour des raisons individuelles, ne pas vouloir me faire vacciner, mais je peux pas généraliser ou je ne peux pas universaliser, justement comme le dirait Kant, cette maxime en me disant personne ne doit se faire vacciner et tout va très bien se passer comme ça. Donc en fait on voit qu'il y a assez immédiatement un consensus finalement ou un universel, et en même temps, et pour revenir du coup à ce que disait Pierre-Henri Tavoyot par exemple sur les lois de bioéthique, ben le fait quand même que le droit à un moment doive se poser la question de ce qui est socialement en fait acceptable, hein, sur des questions, alors qui sont toujours des questions qui sont liées au vivant ou aux mœurs, hein, on peut penser aux lois qui sont aussi sur la famille, sur la procréation, donc qui sont toutes ces lois en fait qui vont en effet soulever des questions éthiques. Ça montre quand même qu'il y a aussi une part de la morale qui est le produit, presque on pourrait dire, d'une forme de négociation sociale. Et d'ailleurs, je trouve ça assez intéressant que les lois de bioéthique, elles soient faites sur proposition du Conseil consultatif national d'éthique, qui organise justement des consultations citoyennes, c'est-à-dire qui essaye de jauger un petit peu l'état de la société sur ces questions-là. Et on peut se dire quand même que pour que le droit soit juste, en tant que droit, effectivement, qui n'est pas une norme de même nature que la morale, eh bien, il faut quand même que ces normes juridiques, elles correspondent finalement à la société qu'il leur appartient de réguler. Et pour ce faire, en fait, il faut aussi saisir ben, l'État, justement, comme je le disais tout à l'heure, de ce qui est socialement acceptable du point de vue éthique.
Pierre-Henri Tavoyot, vous détestez le relativisme dû à chacun sa morale, mais ce qui vous déplaît également, c'est le moralisme, la contre-attaque de l'empire du bien dans tous les pans de l'espace public.
Oui, alors je pense, bon, je le déteste, mais j'essaie d'abord de le comprendre, parce que il me semble qu'on est dans une situation où notre monde est devenu assez largement illisible. Nous avions jadis des grands récits, qu'ils soient mythologiques, religieux ou idéologiques, qui nous permettaient non seulement d'expliquer le monde, mais de se dire, voilà, notre place est là, ma place est là. Même idéologique, hein, le grand récit communiste disait, voilà, vos actes quotidiens vendent l'humanité à la sortie de l'usine, ça a du sens. Nous ne sommes plus dans ces grands récits communs, hein, qui faisaient du commun. Et donc, du coup, qu'est-ce que nous avons comme élément de remplacement, c'est pour rendre ce monde lisible? Nous avons des grilles de lecture qui très rapidement deviennent assez simplistes. Alors le complotiste en est une, c'est-à-dire le complotiste, il y a une intention méchante, voilà, et ça, presque ça serait la bonne nouvelle s'il y avait encore des gens qui agissaient dans le monde, mais voilà, l'idée qu'il y a une sorte d'intention méchante. La grille morale est une grille de ce type-là, c'est-à-dire que la grille morale c'est formidable parce qu'il y a d'un côté les gentils et de l'autre les méchants, voilà. Et donc nous sommes tentés d'appliquer sur des problèmes de société cette grille moralisatrice, sous forme d'ailleurs de guerre, c'est-à-dire ce que se faisait Marx, alors peut-être pas forcément à mauvais titre jadis, la lutte des classes, la lutte des sexes, la lutte des générations, et la lutte des races, qui revient en force en plus aujourd'hui. Donc nous posons ces grilles, et ces grilles expliquent tout, avec quand même une logique extrêmement simpliste, avec d'un côté les gentils, de l'autre côté les méchants. Donc c'est ça la moralisation, la néo-moralisation du monde.
Et comment sortir de la spirale du dogmatisme moral et du tout relativisme? Quels sont les outils?
Le principal outil, je pense que tous les philosophes seront d'accord là-dessus, c'est l'outil de la critique, c'est-à-dire apporter des distinctions, retrouver une forme de saveur de complexité. C'est-à-dire, on a l'impression que le simplisme est très séduisant, parce que c'est bien, c'est mal, c'est clair, etc. Alors, en fait, c'est pas très satisfaisant, parce qu'on trouve des exceptions innombrables à cette situation. Ne pas dire, attention, qu'il n'y a pas de guerre réelle. Il existe des guerres réelles, il faut pas être naïf. Mais retrouver la saveur de la complexité, se dire que c'est plus intéressant pour être libre d'examiner, justement, comme le disait Indaï tout à l'heure, les débats de société, les contradictions, faire état des argumentations concurrentes, tout ça est important. Tout ça est important et en plus, tout ça fait du commun. On recherche le commun comme un truc qui tombe du ciel. Non, le commun se fabrique par la discussion, c'est comme ça qu'on est ensemble. C'est pas en étant tous d'accord, c'est en discutant, en divergeant.
Alors, moi, je plaiderais pour l'existence de gentils et de méchants. Je ne crois pas que le problème, le dogmatisme moral commence quand on soutient l'existence de gentils et de méchants, mais quand on leur associe une nature. C'est-à-dire l'idée qu'il y aurait naturellement des gens gentils ou des gens méchants par nature, c'est-à-dire quelque chose qui fige. Et je pense que on tombe dans le puritanisme quand on voit dans le bien et le mal des natures figées, un essentialisme, et qui nous amène à confondre être bien, être quelqu'un de bien, avec être quelqu'un de pur. Vous voyez, quand on confond la bonté et la perfection. Donc on va lancer des anathèmes. Le puritanisme a quelque chose d'inquisitorial. Il lance des anathèmes, il voit des gens qui peuvent pas en faire partie, qui font pas partie de notre club. Donc je pense que l'erreur, le dogmatisme, le puritanisme, qui est tout aussi opposé à la morale que l'immoralisme d'une certaine façon, commence quand on fige la liberté, quand on croit qu'on n'est pas libre d'être bon ou d'être un salaud, mais qu'on est prédestiné à l'être. Et à l'inverse, le relativiste pense que tout est permis, qu'en fait la morale ne doit pas exister, en tout cas qu'elle n'existe pas, parce qu'il n'y a que des actions individuelles. Donc la morale n'est ni l'un ni l'autre, ni relativisme, ni puritanisme, mais il y a des gentils et des méchants. D'une certaine façon, moi je pense que la morale est la chose la plus radicale à laquelle nous soyons confrontés. Pourquoi ? Parce que, peut-être en apportant un tout petit soupçon à ce qu'a dit Pierre-Henri Tavoyau, je pense que la méchanceté, elle commence avec la lâcheté la plus ordinaire. C'est-à-dire l'idée selon laquelle la morale, c'est secondaire. Ça vient dans mon emploi du temps plutôt dimanche après-midi ou les jours fériés. Vous voyez cette idée que, bah non, là vraiment, j'ai pas le temps, ou j'avais autre chose à faire, ou j'ai pas bien compris ce qui se passait, j'ai rien fait. Je pense que la méchanceté, elle commence là, parce que la morale me requiert absolument. C'est pas du tout une zone grise, comme on a pu le dire. C'est quelque chose où le bien se dit en évidence. Donc il faudrait, en fait, ce qui nous resterait à faire, c'est d'examiner à partir de quel moment on a opposé, comme on l'a dit, hein, on a opposé à la morale un relativisme, parce que la morale n'a absolument rien de à voir avec le relativisme. Comme l'a dit Pierre-Henri Tavoyau et Marianne Daye, on sait parfaitement ce qu'il faut faire. Les choses n'ont pas changé depuis des millénaires, d'une certaine façon. À partir de quel moment et pour quel bénéfice on a voulu associer la morale avec un relativisme.
Claire Destacan et Julia Macarès m'ont aidé à préparer cette émission avec la collaboration de Manon Cancé, à la réalisation Stéphanie Texier, et on écoute Étienne Dao et Charlotte Gainsbourg, IF, sélectionné par notre programmatrice musicale Muriel Pérez.
Fautif, IF intrusif, plus combatif, sous-sélatif, en soins intensifs, cherche le motif. IF négatif, maladif, inexpressif, et plus vraiment vif, cherche le motif. IF trop captif, et décoratif,
IF défensif, à cran offensif,
IF incisif. Mes coups de canif,
IF agressif.
Qui est le fautif? IF intrusif, plus combatif, sous-sélatif, en soins intensifs, cherche le motif. IF négatif, maladif, inexpressif, et plus vraiment vif, cherche le motif.
Étienne Dao et Charlotte Gainsbourg interprétaient IF.
Grand bien vous fasse.
Enfin, c'est comme ça, on n'y peut rien changer.
Ali Rebéi.
C'est comme ça et pas autrement.
Sur France Inter.
Et cet après-midi, je vous propose de décortiquer ce qu'est la morale en compagnie des philosophes Aidan Diaye et Paul-Henri Tavoyau.
Il faut bien distinguer la morale de l'éthique. C'est-à-dire que, prenons un blessé au bord de la route, je dois lui porter secours, c'est un devoir inconditionnel. 300 mètres plus loin, un de mes amis se marie. Il m'a demandé d'assister à son mariage. Dois-je y aller ? Là, c'est à moi de juger, c'est pas une obligation morale. C'est une question éthique. Si je suis journaliste, j'ai des devoirs. Ils sont conditionnels. Parce que je peux échapper à ces devoirs en cessant d'être journaliste. Même chose si je suis médecin. Si je trouve que l'éthique médicale ne me convient pas, je n'ai qu'à cesser d'être médecin. Tandis que pour échapper aux devoirs moraux, il faudrait cesser d'être homme. Donc la morale est quelque chose d'inconditionnel, les devoirs moraux sont inconditionnels, et les devoirs éthiques reposent sur le choix de chacun de vivre de telle ou telle façon.
Le philosophe Marcel Conche en 2010 sur France Culture. Je vous conseille d'ailleurs un merveilleux livre, Épicure en Corrèze, disponible en poche. Pierre-Henri Tavoyau, sur quoi reposaient les fondements de la morale ?
Alors, ça, c'est un élément justement qui a radicalement changé. Autant les principes.
C'est ça qui pose question.
Voilà. Alors, il y a trois crises de la morale. Les fondements de la morale sont solides. On a vu les principes non-nuisance, non-indifférence, bienfaisance. Mais il y a trois éléments qui nous font entrer dans des zones de turbulence. Le premier, c'est effectivement la crise des fondements. Pour le dire à l'essentiel, jadis, soit la morale, c'était la morale des ancêtres. Le conformisme, soit c'était une morale cosmologique, c'est-à-dire une morale qu'on considère qu'elle était dans la nature, il fallait juste observer la nature pour identifier comment se comporter. Soit, troisièmement, elle venait de Dieu, c'est les tables de la loi, les commandements, etc. Donc, on avait des fondements, j'allais dire, transcendants, soit extérieurs, soit antérieurs, soit supérieurs à l'humanité. Voilà, nous sommes sortis de ces fondements, c'est pas nouveau, hein, c'est la crise de la Renaissance, donc c'est pas mai 68, c'est la crise de la Renaissance. C'est-à-dire que l'homme s'est mis, parce que ses fondements ne paraissaient moins sûrs, moins certains, dans la quête de fondements purement immanents. C'est-à-dire, ces fondements, il faut les chercher à l'intérieur. Et du coup, vous voyez, c'est quand même très très problématique, c'est l'idée même d'autonomie, j'obéis à des lois qui ne viennent que de moi. Et ça, c'est compliqué.
Donc, c'est vertigineux.
C'est vertigineux, oui, c'est exactement vertigineux. Donc, vous voyez, l'image qui résume bien ça, c'est l'image du baron de Münchhausen, ce baron légendaire à qui il arrive des aventures extraordinaires. Un jour, il tombe dans un marais avec son cheval, il ne sait pas comment s'en sortir, jusqu'à ce qu'il ait cette idée géniale, il se prend par les cheveux, il se sort du marais. Voilà, ça s'appelle la démocratie, nous sommes dans cette situation. Donc il faut trouver des principes en nous, et le seul principe possible, c'est qu'on en a besoin. De cette morale pour vivre avec les autres. C'est un peu problématique parce que c'est assez fragile, c'est assez fort et fragile. C'est un besoin intérieur, mais évidemment, ça va pas m'obliger à être moral. Ça va pas me contraindre. Il faut simplement que je réfléchisse à ce qui rend possible la vie collective.
Si je vous comprends bien, le seul fondement possible de la morale aujourd'hui, c'est le dialogue, l'argumentation, la délibération. C'est davantage une méthode qu'un dogme. C'est plus un cheminement qu'une solution.
Oui, c'est ça. Alors c'est très insatisfaisant quand on attend des leçons qui tombent du ciel, mais en même temps c'est assez puissant. C'est-à-dire que c'est en discutant de la morale qu'on peut faire monde commun et faire morale commune. C'est-à-dire la discussion elle-même embarque à l'insu de notre plein gré, comme on disait jadis, des valeurs. Quand vous discutez avec quelqu'un, vous supposez la règle, par exemple, d'égalité, c'est-à-dire que la loi de l'argument le meilleur, vous supposez la règle de liberté, comme disait Laurence de Villers tout à l'heure. C'est-à-dire, si vous discutez avec quelqu'un, c'est vous estimez que c'est votre point de vue et que vous avez envie de lui faire changer d'avis. Donc, nous sommes deux interlocuteurs libres. C'est aussi la fraternité. Ça veut dire qu'il vaut mieux débattre que se battre. Donc, vous voyez, il y a déjà, dans la discussion, dans le fait même de la discussion, des valeurs éthiques qu'on embarque avec nous et que nous, on ne doit pas, pour le coup, transgresser.
Aïdan Diaye.
Oui, alors c'est effectivement assez compliqué de savoir comment fonder la morale. Il y a deux choses que je voudrais dire. J'aime beaucoup les travaux du primatologue Franz De Waal qui travaille sur le sens moral des animaux, en fait. Et donc, il y a une super conférence TED avec des expériences hyper rigolotes où il arrive à montrer que, donc il travaille sur certains singes, que chez ces chimpanzés dont il pensait au départ qu'ils étaient très très violents, il observe en fait des comportements de coopération, un certain sens de l'équité. Donc l'une des expériences qu'il fait, qui est vraiment les plus drôles à voir, c'est de donner un bout de concombre à un singe et un grain de raisin à l'autre, et celui qui reçoit le concombre en fait devient fou, il exige absolument le raisin comme l'autre, quoi. Et il montre aussi donc comment les animaux coopèrent, des gestes de consolation, d'empathie. Donc ça suggère quand même que il y a comme une espèce de sens inné de la morale, et que ce fondement justement qu'on cherche, notamment justement avec Kant, à fonder en raison, pourrait aussi s'ancrer finalement dans quelque chose de presque plus intuitif et instinctif. Et il y a des expériences aussi qui ont montré que si on laisse très peu de temps aux gens pour décider de se comporter de manière altruiste ou pas, eh bien en fait les gens se comportent de manière plus altruiste que si on leur laisse le temps de réfléchir, comme si finalement on avait peur en se comportant de manière trop altruiste qu'on pense que justement en fait on est intéressé, ou comme s'il y avait une espèce d'attente sociale d'être égoïste, et comme si au contraire au fond il y avait quelque chose de d'instinctivement altruiste et bienveillant chez nous.
Et Christophe André acquiesce vos propos.
Oui, c'est passionnant. Ces travaux de Val et des éthologues sur les chimpanzés montrent que les chimpanzés sont sensibles à l'injustice, et ça les fout en rage d'assister à des injustices et d'en être victimes. Et effectivement, toutes les données dont on dispose, il n'y en a pas des tonnes, mais montrent que nous sommes plutôt câblés pour apprécier la morale et nous comporter moralement que pour l'inverse. C'est assez réjouissant finalement, ça souligne le rôle de l'éducation, de la pédagogie, de la culture.
Est-ce que vous acquiescez au propos d'Aïdan Diaye ?
Pas totalement, parce que en fait, il y a un débat qui me paraît, alors j'essaie de décrire un peu dans le bouquin, mais qui est passionnant, entre Franz Zeval d'un côté et Thomas Sello de l'autre. Et Thomas Sello étudie, alors d'un point de vue psychologique, les chimpanzés, et il a tendance à montrer, alors je suis évidemment pas compétent pour trancher ce débat, mais le débat est intéressant, qu'en fait, il y a la très grande tentation de projeter dans l'observateur scientifique des comportements moraux à des comportements qu'on peut interpréter de manière tout à fait différente. Et je recommande de regarder ce débat. Il y a deux petits livres extraordinaires de ces deux auteurs. Moi, je suis très indécis entre les deux, hein, j'avoue. Mais ça m'a... Deux petits livres qui présentent les conférences... j'ai oublié le nom de conférences universitaires très célèbres. Et donc, ces deux petits livres présentent sur les mêmes types d'expérimentations, deux interprétations radicalement différentes. Thomas Sello étant convaincu que, malgré tout, il n'y a pas de sens moral au sens strict chez les animaux, et parce qu'il leur manque cette capacité de s'arracher à eux-mêmes, c'est-à-dire cette capacité réflexive de penser l'autre, de penser soi-même comme un autre, si je puis dire.
Pierre-Henri Tavoyot, on le voit bien en lisant votre livre, on assiste à la multiplication des champs d'application de l'éthique et de la morale. Et ça aussi, c'est vertigineux.
Oui, c'est la deuxième élément. Donc, premier élément de la crise morale, c'est les fondements. Deuxième élément, c'est ce qu'on peut appeler les terres inconnues de l'éthique. On rentre en terre inconnue, c'est-à-dire que là, la tradition, on a beau chercher, ne nous apporte pas grand-chose. Sur trois domaines, pour aller vite, le rapport à la planète, le rapport à la nature, parce que pour un penseur antique, la nature, c'est immense, c'est tout, c'est l'éternité. Donc, l'idée que l'homme puisse menacer cette nature, ça n'a juste aucun sens. Donc, ce nouveau pouvoir humain sur la nature est tout à fait nouveau. Deuxième élément, cette idée de manipulation du vivant, et notamment du vivant humain, c'est-à-dire l'idée qu'on pourrait transformer l'humain grâce à l'humain. Et troisièmement, cette idée d'intelligence artificielle, c'est-à-dire qui viendrait soit en dopage de l'intelligence humaine, soit en concurrence de l'intelligence humaine. Donc ça, ce sont trois champs vertigineux qui font effectivement que nous sommes en situation un peu de panique éthique. Et puis, il y a un troisième élément de la crise, je crois qu'il faut l'ajouter, c'est que quand on dit « ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'autrui te fasse », il reste une question décisive, c'est « qui est autrui ?» Voilà. Et ça, on pensait que c'était évident jadis. On se disait, autrui, c'est genre de ma famille, de mon clan, de mon village. Bon, on est arrivé à un moment de stabilité en disant, bon, grosso modo, on est tous d'accord pour dire que les autrui, c'est des humains. Et puis maintenant, on se dit, et les animaux, et les robots, et l'intelligence artificielle, et la génération future, et les morts, et les martiens. Enfin, voilà.
Laurence de Villers.
Oui, effectivement, qui est autrui, c'est la grande question, en réalité. Et c'est la grande question de la morale qui oscille toujours entre l'abstrait. C'est une abstraction quand même, le bien, le mal, c'est pour ça qu'on y met des majuscules d'ailleurs, et le très concret. Alors soit on verse dans le trop concret et l'autrui c'est celui qui fait partie de mon club, donc celui que j'aime bien, celui qui m'est sympathique, soit on va vers peut-être trop abstrait et on dit c'est l'humanité en général, mais on n'est jamais moral en général. Donc je crois que ce que souligne Pierre-Henri Tavoyot, c'est le problème de la morale, comment elle arrive à trouver sa place entre trop abstrait ou beaucoup trop limité dans le concret.
Allez, il est l'heure de retrouver les choses vues de Christophe André.
France Inter.
T'es quoi, t'es médecin, psychiatre?
Grand bien vous fasse.
Psychothérapeute. Qu'est-ce qui me prouve que t'es psychothérapeute?
Christophe André.
Autrefois, dans les petites classes, il y avait des leçons de morale. Alors attention, hein, quand je vous parle d'autrefois, c'était il y a longtemps, au siècle dernier, le XXe siècle, quand j'étais écolier. La maîtresse commençait la journée de classe en ouvrant une petite boîte dans laquelle elle prenait une fiche cartonnée et elle nous lisait une histoire. C'était en général une histoire simple et brève, mettant en scène un enfant qui avait un comportement moral. Une histoire qui montrait qu'il ne fallait pas mentir, que c'était bon de donner, de partager, de pardonner, de ne jamais faire le mal, etc. Nous écoutions ça les bras croisés, en silence, puis on passait aux leçons du jour. Il n'y avait pas de débat, pas de discussion, pas d'expression libre à partir du récit comme ça se pratique aujourd'hui. Chacun en faisait ce qu'il voulait, dans le silence et la solitude de son cœur. J'aimais bien ça, les leçons de morale. D'abord parce qu'il n'y avait rien à faire. Pas de leçons à prendre, puis à réciter, pas de compte-rendu à écrire, pas d'inquiétude de devoir passer au tableau, d'avoir une mauvaise note. C'était léger, suspendu hors des contraintes scolaires habituelles, bien à distance du « il faut bien apprendre tes leçons ».
Ma petite sœur bien-aimée, ce que tu veux devenir,
oh oui,
quelqu'un dont on parle et qu'on admire,
tout à fait d'accord,
ou simplement un petit animal qui ne sait rien et qui se tient très mal. Mais si tu prends la première solution,
oui, bien sûr,
tu dois apprendre tes leçons.
Je ne peux pas.
Et oui, mais j'aimais bien ça aussi, les leçons de morale, parce que j'étais pas forcément très moral moi-même. Je mentais parfois, je volais de temps en temps,
ah
je
bon
distribuais des nions si nécessaire, parfois à des plus forts que moi, mais parfois aussi à des plus faibles. Alors, je sentais que c'était bon pour moi quand même, qu'on me dise clairement, ça c'est bien et ça c'est mal. Mais sans insister, sans me casser les pieds ensuite, la société me transmettait ses règles et je me débrouillais avec. Plus grand, j'ai découvert bien sûr que les abus de morale sont agaçants, que l'enfer est pavé de bonnes intentions et que la morale ne doit pas consister en des interdits, en dehors de celui de faire du mal à autrui, mais en des encouragements. Tout de même, ces cours de morale destinés aux enfants, j'en ai gardé, devenu grand, trois grandes convictions. La première est individuelle et émotionnelle. On se sent toujours mieux en faisant du bien plutôt qu'en faisant du mal, qu'il s'agisse du bien fait aux autres ou du bien fait à soi. Nos émotions aiment les comportements moraux et nous le font savoir, ou plutôt ressentir. C'est ce qu'écrivait Rivarol. La morale veut non seulement que nous paraissions vertueux, mais que nous le soyons, car elle ne se fonde pas sur l'estime publique, qu'on peut toujours surprendre, mais sur notre propre estime, qui ne nous trompe jamais. La deuxième conviction est collective et sociale. La société respire mieux si elle respecte des règles morales de base. Et les groupes sont plus agréables à vivre s'ils sont constitués de ce qu'on appelle simplement des gens bien. Des gens qui ne mentent pas, ou le moins possible, qui sont généreux, respectueux des autres et prêts à aider leurs prochains. La troisième conviction, c'est que la morale, la vraie morale, la seule morale à laquelle je crois, elle commence par soi. Elle ne consiste pas à énoncer des règles que les autres doivent suivre, mais à se les appliquer à soi-même, tranquillement, régulièrement, discrètement. Bon allez, c'est terminé, je range mon petit carton dans ma petite boîte et je vous laisse en paix méditer tout ça dans le silence et la solitude de votre cœur.
Et tiens, justement, dans la lignée de votre chronique, nous avons Liliane au téléphone. Bienvenue Liliane.
Bonjour, France Inter.
Bonjour.
Merci pour ma question.
Votre question tombe à pic.
Oui, absolument. J'ai plus de 70 ans et je me souviens justement des leçons de morale à l'école. C'était chaque matin et une phrase était inscrite au tableau. On devait la recopier et puis la maîtresse donnait quelques explications cependant et il fallait aussi apprendre cette phrase. Alors je me demande pourquoi il n'y a plus ces leçons quotidiennes. J'ai lu qu'il y avait une réintroduction des leçons de morale, mais que ce n'était pas obligatoire tous les jours. Donc en fait, les enseignants font ce qu'ils veulent. C'est bien dommage que ce ne soit pas tous les jours, parce que la morale, elle faisait partie de l'éducation. Je vais citer une phrase que j'aime beaucoup. L'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde. Et c'est de Nelson Mandela.
Mmh. Et Liliane, je n'ai pas 70 ans, mais j'ai connu également les leçons de morale de mes instituteurs, Monsieur Douane, de mon institutrice, Madame Petit. Et pareil, comme vous, des phrases à méditer. Aïdan Dia, je crois que vous avez envie de répondre à Liliane.
Oui, je peux répondre à la fois en tant qu'enseignante et puis en tant que mère, parce que mes enfants sont petits et vont à l'école primaire. Et en fait, il y a un petit peu, alors c'est pas des leçons de morale, mais on a quand même depuis plusieurs années maintenant de l'éducation morale et civique, l'EMC, qui existe en primaire et en au collège et au lycée, qui est souvent jouxté à l'enseignement d'histoire-géographie et qui permet justement quand même de travailler sur ces questions. Alors c'est vrai que c'est un peu indéterminé et d'ailleurs par ailleurs, moi je sais pas si l'appellation d'enseignement moral est forcément le plus approprié, parce que c'est des leçons de bien vivre ensemble en fait. Hein, donc c'est à mi-chemin entre les grands principes finalement juridique. Mon fils qui est au collège, bon, il travaille beaucoup sur sur les grands principes de la Constitution par exemple. Et d'une manière générale, bon, toutes les règles qui doivent organiser la vie en commun. Donc ça tend, même si c'est effectivement pas des leçons de morale avec des petites maximes, mais ça tend quand même à introduire dans l'enseignement une réflexion sur les règles qui doivent veiller à notre vie en commun.
Pierre-Henri Tavoyau.
Oui, je pense qu'en fait, il y a beaucoup de morale à l'école. Moi, j'ai travaillé pendant 10 ans au Conseil national des programmes, qui était chargé de faire les programmes de l'éducation nationale. Et en fait, nous recevions quasiment quotidiennement des injonctions en disant, voilà, pour lutter contre l'obésité, pour lutter contre le machisme, pour lutter contre la pollution, pour lutter, voilà. Il fallait que l'école, au contraire, booste. Et ça a été problématique, parce que, voyez que cette injonction morale qui pèse sur l'école aujourd'hui tend à faire en sorte que la part de l'instruction rétrécisse, surtout qu'effectivement là c'est pas une morale réflexive qu'on propose, ou en tout cas une réflexion individuelle. C'est souvent on est tenté de produire à la fois le principe et la déconstruction du principe, c'est-à-dire de dire voilà, discuter, critiquer, etc., comme si on ne posait pas des valeurs, mais en effet plutôt des méthodes pour ne pas avoir de valeurs.
Merci beaucoup Liliane pour votre question, et vous pouvez podcaster et réagir à la chronique de Christophe André.
Oh,
Silk Sonic vient d'interpréter Leave the Door Open.
Grand bien vous fasse sur France Inter.
Et cet après-midi, je vous propose de décortiquer ce qu'est la morale en compagnie des philosophes Aydan Diaye et Paul-Henri Tavoyot. J'aimerais qu'on termine cette émission avec la question de la cancel culture. Alors, cancel culture, c'est une expression anglo-saxonne, c'est une posture morale très en vogue dans le monde anglo-saxon et qui commence à contaminer l'espace public français. La cancel culture, c'est le droit à ne pas être offensé au nom de principes moraux, Pierre-Henri Tavoyot.
Oui, c'est une idée que voilà, il y a certaines idées, il y a certaines actes, il y a certaines même il y a certains mots même ou manières d'écrire qui constituent des offenses. Et donc au nom de ce caractère d'offense, nous devrions renoncer. C'est par exemple le principe de l'écriture inclusive. C'était la thèse qui sous-tend cette écriture inclusive, c'est l'idée qu'il y a dans la langue, non pas du fascisme comme disait Barthes, mais qu'il y a dans la langue du racisme, du patriarcat, et tout ça doit être éradiqué. Alors moi j'ai les plus grandes réserves à l'égard de cette cancel culture, parce que je trouve que c'est une abolition de la réflexion. C'est justement, il faut essayer de réfléchir sur le langage, de réfléchir sur notre passé, mais vouloir l'annuler ou l'abolir me paraît terriblement dangereux. Je suis personnellement très hostile à l'écriture inclusive. Parce que d'ailleurs, elle n'est pas claire en plus.
Je cite une définition de l'historienne Laure Murat. La cancel culture est littéralement la culture de l'annulation qui consiste à pointer du doigt une personnalité, une entreprise dont un propos, une action a été considérée comme répréhensible ou offensant et à lui retirer son soutien via les réseaux sociaux. Aydan Diaye.
Plus que l'attaquer d'ailleurs, on peut l'attaquer aussi.
Les adeptes de la cancel culture se vivent comme des individus profondément moraux et qui pratiquent donc ce lynchage.
Oui, effectivement. Alors bon, moi je pense que c'est très compliqué de parler de ces questions et on a peu de temps parce que les positions sont très très figées. À mon sens, en fait, le problème de fond, c'est un problème sur la méthode de la discussion. En fait, on ne peut que être d'accord avec ce qu'a dit Pierre-Henri Tavoyot, c'est-à-dire que il faut, comme je l'ai dit aussi d'ailleurs, une délibération publique et collective pour essayer de créer du consensus et du commun sur ce qui est acceptable. Le problème, c'est qu'on n'est pas d'accord sur les modalités de la discussion et que la question de la place de la subjectivité dans une discussion rationnelle et scientifique ne fait pas elle-même consensus, et que cette question de l'offense, en fait, à mon sens, elle peut être posée, ou en tout cas, elle révèle qu'il y a des choses qui étaient socialement acceptables, une forme de racisme ou de sexisme ou, je ne sais, d'homophobie dans la parole, en fait, rationnelle et institutionnelle, en fait, qui commence à ne plus être aussi facilement acceptable, en fait, qu'elle a pu l'être. Et donc, je pense qu'on est dans une période de transition qui fait que, eh bien, il y a des oppositions qui se créent, mais que dans le fond, rejeter en tant que tel l'offense, c'est-à-dire la place de la subjectivité dans une discussion rationnelle, c'est aussi quelque chose qui est remis en question. Il y a une épistémologie du point de vue qui se développe, il y a des travaux de sciences sociales qui se développent sur cette question-là, et sur la question de savoir comment est-ce qu'on peut articuler la subjectivité dans un espace de délibération et de discussion entre égaux et rationnels aussi, en fait. C'est pas contradictoire, finalement, les deux.
Mais Aydan Diaye, cette posture morale dans la cancel culture conduit à offenser l'autre, à lui faire du mal. Rappelons cette règle d'or qu'on évoquait tout à l'heure, ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'il te fie. C'est ça qui est un peu peut-être gênant dans la cancel culture, c'est que cette posture morale conduise à des actes immoraux.
Oui, effectivement, mais je pense que en fait le problème, c'est qu'à mon avis, il faut distinguer les actes effectivement de censure ou d'annulation qui en tant que tels sont effectivement très problématiques, mais qui finalement en France restent encore assez minoritaires, et le fond, si je puis dire, théorique ou même épistémologique du débat. C'est-à-dire qu'on peut dire, je sais pas, par exemple, la question qui s'est posée de la fresque qu'il y avait à l'Assemblée nationale qui commémorait l'esclavage et qui a été considérée par certains chercheurs comme en fait raciste dans la représentation qui était faite des personnes noires qui étaient représentées. Bon, donc la question n'est pas de savoir s'il faut brûler cette œuvre. La question est de savoir quelle place est-ce qu'on peut faire dans la discussion et dans le débat public au fait que pour des personnes, disons, racisées, la représentation qui était faite de des personnes noires dans cette œuvre était problématique, et que dans le cadre d'une fresque qui est censée commémorer l'esclavage, c'est doublement problématique.
Pierre-Henri Tavoyau veut vous répondre, parce qu'il reste quelques secondes. Oui, je suis désolé de vous interrompre.
On sera d'accord pour dire que le danger de la cancel culture, c'est que au nom du refus de l'offense, on produit de graves préjudices. Voilà. Et le préjudice est légalement répréhensible, l'offense fait partie de la vie.
Merci beaucoup Aïda Ndiaye, merci Paul-Henri Tavoyau. On peut lire avec profit la morale de cette histoire et c'est publié chez Michel Lafon. Lundi, on reste dans le même sujet. À quoi reconnaît-on quelqu'un de bien en compagnie de la philosophe Laurence de Villers.